Lizzie présente 9, tome 2, Le crépuscule des fauves, de Marc Lévy. Lu par Audrey Sourdive, avec la participation de Marie Bouvier. Remerciements, lu par l'auteur. Salle de visioconférence. L'écran scintille. Le haut-parleur grésille. Connexion établie à 19h GMT par protocole crypté. Minuit 2 GMT, début de retranscription. Bonsoir. Je suis heureuse de vous retrouver.
Vous êtes en lieu sûr ?
Pour l'instant. Allons-y. La nuit sera longue et nous n'avons pas pris de repos depuis longtemps.
Au moment où nous avons interrompu cette interview, pour des raisons liées à votre sécurité, les membres du groupe 9 faisaient route vers Kiev.
Ce qui s'est produit à Oslo n'était qu'un commencement. L'amorce d'un projet dont l'ampleur nous échappait encore. Nous étions confrontés à des ennemis bien plus résolus que nous ne l'imaginions. Une fois les règles enfreintes, il n'y en avait plus aucune, ni du côté du bien, ni du côté du mal. Depuis plusieurs années, notre groupe 9 avait révélé au grand jour des faits de corruption flagrants et dérangé assez de gens puissants pour que nous soyons condamnés à passer le restant de nos vies en prison si l'on venait à découvrir nos identités. Nous étions hors la loi. Un paradoxe en soi, car ce que nous avions accompli aurait dû nous valoir d'être récompensés. Nous étions amis de longue date, et pourtant, assis au comptoir d'un bar ou au hasard d'une rencontre dans la rue, nous aurions été incapables de nous reconnaître. En route vers Kiev, chacun appréhendait le moment à venir. Chapitre 1. Le cinquième jour, à Kiev. En sortant de l'aéroport, Ekaterina regarda le ciel, étrangement laiteux. Le terminal international lui paraissait plus petit que celui d'Oslo. Elle était curieuse de découvrir à quoi ressemblait Kiev. Depuis leur première rencontre sur la jetée, face à l'île de Malmö, Matteo et elle ne s'étaient plus quittés. La solitaire ne se reconnaissait plus, troublée de s'être accoutumée si vite à une vie qui lui était étrangère. Au point d'avoir eu, la nuit dernière, l'impression de s'être détachée d'elle-même. Après avoir fait l'amour, Ekaterina se rhabille toujours, prête à partir. Elle sourit quand c'était bien, éventuellement s'assied sur le rebord du lit pour échanger quelques mots lorsqu'elle entrevoit la possibilité de renouer un soir avec le même partenaire. Mais elle n'irait jamais se blottir dans ses bras, encore moins lui caresser le visage. Jamais elle ne se laisserait bercer par son souffle ou éprouverait du plaisir à l'idée d'ouvrir les yeux au matin à ses côtés. Cette nouvelle femme aurait dû l'horripiler. C'était tout le contraire. Elle en venait presque à aimer se glisser dans sa peau. Matteo lui ouvrit la portière du taxi, les yeux rivés sur son portable. Il entra dans une application les codes reçus en descendant de l'avion. Des coordonnées GPS et un horaire. La position correspondait au parvis de l'opéra. Il chargea leur sac dans le coffre pendant qu'elle s'installait à l'intérieur du véhicule. La galanterie était une qualité dont elle ignorait l'existence il y a peu. Le taxi rejoignit l'autoroute. Ekaterina regardait défiler les villages, Ora, Tchoubinsk, Proliski, puis la campagne, où l'été rayonnait sur la forêt à perte de vue. Matteo lui prit la main. Tous deux ne savaient rien de ce qui les attendait, et quelle que soit la raison qui les avait éloignés de Rome, ils ne déviraient pas de leur objectif. Baron ne bénéficiait que d'un répit de courte durée. Ils le traqueraient jusqu'au bout, quoi qu'il leur en coûte, et mettraient un terme à sa croisade meurtrière pour fédérer les mouvances ultranationalistes. La banlieue apparut. Ekaterina se pencha pour mieux voir à travers la vitre et sourit. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Matteo.
« Rien, sinon que je suis contente d'avoir quitté Oslo. L'idée de rencontrer les autres m'excite énormément. »«
Tu ne serais pas en train de sous-entendre que tu es heureuse ?» Après avoir passé le contrôle des frontières, non sans une certaine appréhension, Diego voulut louer une voiture à l'aéroport.
Ne sachant pas où ils allaient, ni combien de temps ils resteraient à Kiev, il préférait être libre de ses mouvements. Il introduisit dans son portable les codes reçus par texto. Pour eux, le rendez-vous était fixé à 20h sur le parking d'un hôtel en centre-ville. Pendant que son frère conduisait, Cordelia étudiait sur son ordinateur portable les dossiers récupérés grâce au virus qu'ils avaient implanté. « T'es bien songeuse ?» remarqua Diego. « Nous n'avons encore accès qu'à la moitié des comptes, et le constat est déjà effarant. La fortune de ces cadres supérieurs dépasse l'entendement, et s'y ajoutent les stock options qu'ils reçoivent en bonus. Ces gens s'enrichissent en faisant croître les bénéfices de leurs employeurs par tous les moyens. C'est déprimant. » soupira-t-elle. Même si l'on réussit notre coup, nous serons loin de les avoir ruinés. Si on parvient à leur ponctionner 5 millions à chacun, ils accuseront le coup, crois-moi. Reste à savoir combien de temps s'écoulera avant que leur banque établisse un lien et comprenne ce que nous avons fait. Faisons en sorte que cette découverte ait lieu le plus tard possible. 250 millions de dollars volatilisés en un jour ne passeront pas inaperçus. Et j'ai hâte de connaître la deuxième partie de ton plan machiavélique. Renchérit Diego. Demain matin, la liste sera complète. Si tout se déroule comme prévu, nous aurons le contrôle de leur téléphone portable et nous pourrons valider les autorisations de virement. Avant de transférer des sommes aussi importantes, les banquiers appelleront leurs clients pour authentifier les ordres passés. Et parmi d'autres détails à régler, j'en vois un qui n'a rien d'un détail. Comment mettre cet argent à l'abri avant de l'avoir redistribué ? Cordelia referma son ordinateur et le rangea dans son sac. En le convertissant en crypto-monnaie pour le rendre intraçable, c'est là toute la subtilité de mon idée, même si j'ignore encore comment la mettre en pratique. Diego gara la voiture et coupa le contact. Nous y sommes, enfin, façon de parler. Je doute que ce parking soit notre point de chute. Janice arriva la dernière à Kiev. Elle traversa l'aéroport sac à l'épaule, ralentit le pas pour décrypter le message reçu sur son smartphone, s'interrogeant sur sa destination. À la sortie du terminal, elle se dirigea vers l'arrêt de la ligne d'autocar qui rejoignait la gare centrale. Elle acheta son billet et s'installa sur la dernière banquette alors que le Skybus démarrait. Elle allongea ses jambes et ferma les yeux. Depuis la mort de son ami Noah, elle n'avait pas réussi à dormir plus de 2 heures consécutives. Les cauchemars hantaient son sommeil. Elle rêvait d'un bain, d'un lit, d'une nuit ininterrompue, mais se faisait peu d'illusions sur la soirée qui l'attendait. 50 minutes plus tard, son portable vibra. Janice rouvrit les yeux et reconnut derrière la vitre le bâtiment du ministère de la Défense. La gare n'était plus très loin. Un nouveau message lui recommandait d'emprunter la passerelle qui surplombait les voies. Arrivée rue Simona Petliori, elle n'aurait qu'à se poster devant l'entrée de la station de métro Vokzaïna et attendre.